Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Georges Solo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation, directeur de l'école doctorale gestion, économie, formation de l'université de Bourgogne. Non, je vois...
Je fus.
Vous fûtes. Ouais, voilà, j'avais un doute, mais je préférais vous mettre encore en activité. Vous fûtes donc enseignant à l'UP Management de l'éducation, de la formation et de la culture. Également chercheur à l'IREDU. Pierre Bruno a souhaité vous inviter notamment parce qu'en début d'année, comme je le disais tout à l'heure, vous avez participé à la publication de l'étude, qui est à côté de vous d'ailleurs, le livre « Salariat étudiant, parcours universitaires et conditions de vie » publié par l'Observatoire de la vie étudiante. Un ouvrage comme un état des lieux des nouvelles situations, des nouveaux rapports entre le travail, l'argent, le salarié, les conditions de vie d'étudiants. Alors avec vous, on va découvrir les résultats obtenus et comment vous avez procédé. Mais d'abord, que saviez-vous de la condition d'étudiant ou que pensiez-vous savoir avant de démarrer l'étude, ce rapport salariat-étudiant ?
Avant de commencer, il y avait déjà eu des recherches sur le sujet, des publications du Conseil économique et social environnemental, par exemple, des publications de l'UNEF hein, sur le sujet aussi, mais aussi des recherches avaient été publiées. Et ces recherches mettaient en évidence la complexité du sujet. En particulier, quelle relation entre l'activité salariée des étudiants et leurs données personnelles, hein, leur âge, leur situation universitaire. Y a-t-il une relation entre l'activité salariée et les résultats universitaires ? Enfin, bon, c'était... Voilà, il fallait mettre en évidence la complexité, c'est ce qui a été fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il a été montré que plus l'étudiant passait de temps au travail, plus les effets étaient négatifs sur les résultats universitaires et sur les parcours. Autrement dit, au-delà de 15 heures de travail, les effets sont très négatifs. Inférieur à 8 heures, il n'y a pratiquement pas d'effet. Une troisième donnée montrait un effet plus positif, lui, qui montrait que les étudiants qui se consacraient beaucoup de temps au travail extra-universitaire, à l'activité salariée, étaient aussi ceux qui mettaient en place des mécanismes de compensation et s'investissaient davantage dans les études que les autres. Et donc arrivaient dans une certaine mesure, pas pour tous, mais pour ceux qui arrivaient à se maintenir dans le dispositif universitaire, arrivaient à compenser...
Comme un effet correctif.
Oui, tout à fait. Ouais. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les résultats observés. Alors, ensuite se posaient des questions... Le travail, l'activité salariée pour les étudiants, n'est-elle pas une opportunité de réussite sociale qui n'existe plus quand on est en échec à l'université aussi ? Voilà. Est-ce qu'on ne s'investit pas à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, on ne réussit pas ? On peut se poser la question de savoir si l'étudiant ne s'investit pas aussi dans le travail et dans l'activité rémunérée parce qu'il ne donne pas de sens à ses études. Autrement dit, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il suit telle formation et dans quel objectif. Et puis enfin, on peut se poser la question de savoir si l'activité salariée, finalement, n'est pas un sas de transition entre l'université, un sas de transition positif entre l'université et le monde du travail. Autrement dit, l'activité salariée ne permettrait-elle pas de donner du sens aux études aussi ? Voilà. Tout un ensemble de questions qui se posent suite aux travaux qui ont été réalisés. Donc nous connaissions toutes ces données. Nous les avons introduites d'ailleurs l'ouvrage que nous avons publié. Mais nous avons essayé bien entendu de les compléter. Voilà.
Pierre ?
Alors vous en parlerez peut-être, mais après je crois qu'il y a travail et travail. C'est que dans certains cas, on arrive à trouver un emploi qui correspond. En gros, je veux dire, vous faites des études en lettres et vous trouvez des postes dans des bibliothèques ou un service culturel. Et c'est pas forcément non plus la même chose hein, que ceux qui... Enfin, moi, je voyais des collègues qui devenaient gardiens de nuit ou qui faisaient des piches chez McDo. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a un salariat dans des filières qui sont effectivement pas trop éloignées. Et auquel cas, il peut même y avoir une plus-value en termes de connaissances du terrain. Alors que dans d'autres cas, effectivement, ce sont des emplois purement alimentaires, souvent assez peu valorisés du point de vue du salaire, mais aussi peut-être du point de vue de la société, qui fait qu'effectivement, cette variable-là doit jouer aussi.
Oui. Nous avons travaillé sur... sur la base de l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante de 2013, que nous avons suivi pendant 3 ans. Donc 2013, 2014, 2015, 2016. En 2013, sur 100 étudiants qui avaient une activité extérieure à l'université, il y en avait 19% qui exerçaient une activité rémunérée importante. Hein, autrement dit, une activité rémunérée qui était pénalisante pour les étudiants.
Au-dessus des 15 heures dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement. Ensuite, il y en avait qui travaillaient au sein de l'université, des activités qui étaient liées aux études. Il y avait 17%. Ensuite, il y avait les stages dont on vient de parler. Les stages représentaient 29% de la totalité de ceux qui avaient une activité extérieure. Et puis enfin, il y avait les jobs, ceux qui, un peu ce que j'appellerais tout à l'heure, lorsqu'on décrira davantage le travail, un peu les intermittents du travail. Donc avec une activité peut-être inférieure à 8 heures, dont celle dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous voulez, l'activité extérieure concerne à la fois les stages, des activités liées à l'université, des jobs et 19% d'individus qui ont une activité dans le travail très importante. Alors nous nous sommes intéressés, nous avons éliminé les stages, mais nous nous sommes intéressés essentiellement donc à tous les autres, c'est-à-dire à l'activité dans l'université, aux jobs et aux activités très très investies au-delà de 15 heures par semaine. C'est-à-dire l'activité rémunérée stricto sensu.
Quel est le profil du coup des étudiants salariés que vous avez croisés? Est-ce que sont des classes sociales évidentes qui se retrouvent systématiquement? Est-ce qu'on a des profils, des parcours de vie qui sont très différents? Il y a des constantes?
Les profils d'étudiants, ceux qui travaillent généralement, sont ceux qui ont un besoin alimentaire, dont parlait Pierre Bruno tout à l'heure. Par exemple, si on s'intéresse aux raisons pour lesquelles il y a une activité salariée, ceux qui travaillent disent que j'ai une activité salariée parce que ça me permet d'améliorer mon niveau de vie à 79%. Autrement dit, l'activité salariée est vraiment très, très alimentaire. Si elle n'existait pas, je ne sais pas comment je survivrais. En dessous, bien entendu, ça permet d'acquérir une expérience professionnelle. Mais quand même, la motivation principale est à 73%. Et bien entendu, ceux qui travaillent, ceux qui s'investissent le plus dans l'activité salariée sont ceux qui ont les ressources les plus faibles. Mais cette activité salariée ne suffit parfois pas à surmonter les difficultés financières. Il y a des, comment dirais-je, des catégories sociales d'étudiants qui sont très pénalisées, ce sont celles qui, sur le plan de l'imposition, se trouvent juste aux limites supérieures, définies par la loi pour obtenir une bourse, par exemple. Et là, les classes moyennes inférieures sont celles qui ont le plus de difficultés, parce qu'elles ne bénéficient pas des bourses maximum, et elles ont les revenus qui sont très proches des revenus minimums. Donc leurs enfants partent à l'université avec des bourses qui ne sont pas élevées, parce qu'ils sont au-dessus du seuil, bien entendu. Et donc, ces enfants sont obligés, pour une bonne part, de compléter les revenus familiaux, les petits revenus de la bourse, par une activité salariée.
Pierre, peut-être une question ou une réaction ?
Oh non, j'écoute avec une grande intérêt, donc tout est parfait pour moi.
Depuis tout à l'heure, je me pose une question qui n'est pas dans votre étude, Georges Cholot. Pierre nous en a parlé. Vous avez fait vous-même des petits boulots comme ça lorsque vous étiez étudiant? Est-ce que vous avez été dans la nécessité, dans le besoin ou après autrement dans l'envie, dans découvrir le monde salarié comme ça?
J'ai travaillé à partir de l'âge de 14 ans toutes mes vacances scolaires.
Ah ouais.
À l'époque, à 14 ans, on pouvait travailler en usine. Hein.
Donc, maintenant,
j'ai travaillé
16 ans,
dans une laiterie dans laquelle je retournais les fromages. Et à partir de 17 ans, j'ai accompagné des vacances scolaires et des adolescents en vacances scolaires.
Alors, c'était des boulots d'été parce que c'était la famille qui était dans ce milieu-là, imagine laiterie, ou c'était une nécessité économique aussi pour vous ?
Ce n'était pas une nécessité économique. Je pense que mes parents ne m'auraient pas obligé à aller travailler, mais ils m'ont incité quand même.
Pour découvrir le monde du travail.
Bien entendu. Et si, de toute façon, en tant qu'adolescent, à 14, 15, 16 ans, je souhaitais avoir de l'argent de poste, il fallait que je me le procure. Mes parents ne pouvaient pas me le donner.
Mmh. Donc, tout simplement.
C'était une nécessité.
Mais en tout cas, on voit avec votre parcours que ça ne vous a pas trop entravé pour la réussite, votre parcours universitaire.
C'est-à-dire que pendant mes études... puisqu'il faut rentrer dans les détails, j'étais salarié. J'ai commencé comme instituteur, ensuite j'ai préparé des concours pour être inspecteur, inspecteur d'académie. Bon, voilà, les concours se préparent en travaillant. Et j'ai préparé ma thèse, j'avais 40 ans, en étant inspecteur d'académie. Donc c'est aussi une activité salariée quand même.
Quand même.
Donc je sais ce que ça représente.
On revient sur l'étude... à laquelle vous avez contribué. Là, je vois les situations d'études et d'emploi et les trajectoires et les parcours types, les frontières entre ces situations. C'est ce que vous nous avez mis en exergue quand on préparait cette émission. Parlez-nous de cette porosité, du coup, des frontières de l'un à l'autre.
Oui, si vous voulez, le parcours des étudiants n'est pas... un parcours uniforme et il n'est pas complètement homogène. Mmh. Autrement dit, nous avons des étudiants qui commencent des études, qui arrêtent, qui reprennent. Des étudiants qui associent du travail aux études, qui ensuite abandonnent le travail et font uniquement des études. Des étudiants qui commencent uniquement avec des études et qui ensuite associent le travail aux études. Des étudiants qui commencent des études avec le travail, qui abandonnent, qui vont dans le monde du travail et qui reviennent. Donc ce que nous avons essayé d'identifier, ce sont ces trajectoires. Et on en a identifié 8.
Oui, parce que là, décrit comme ça, on imagine que les combinaisons sont nombreuses.
Elles sont très multiples.
Et du coup, les profils sont extrêmement différents.
Elles sont multiples. Hein. Bon, c'est un travail de statisticien. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Jean-François Giray, qui est directeur de l'IREDU, qui l'a fait. Il est statisticien de haut niveau. Si vous voulez, pour ce qui nous concerne, hein, pour les étudiants qui sont en difficulté et qui travaillent, il y a 4 parcours. Le premier parcours, ce sont ceux qui font des études et travaillent à mi-temps, continuellement. Mmh. Hein, ceux-là, dans les parcours types, représentent, disons, 14% pour être... je ne vais pas mettre des virgules. 14% des étudiants.
Quand même. Pardon de réagir dès maintenant, mais ça n'est pas rien, 14%.
Ah oui, c'est 14, travaillent à mi-temps ou plus. Hein, oui, ouais. C'est-à-dire qu'ils travaillent... Le mi-temps, je le rappelle, c'est 15 heures. Puisque c'est 30 heures, hein, ou 35 heures, hein, c'est 17 heures. Donc, ils travaillent plus de 17 heures par semaine. Donc, c'est quand même quelque chose de pesant. Mmh. Et toutes leurs études. Ensuite, il y a deux parcours types qui sont un peu inverses. Le premier concerne des étudiants qui sont à mi-temps et qui font des études en même temps et qui ensuite reprennent des études seules. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils représentent 4%. Ensuite, on a le parcours inverse, des étudiants qui font des études seules et qu'ils combinent ensuite avec le travail. Alors, ils sont plus nombreux, ils représentent à peu près 10%. D'ailleurs, j'en profite pour dire que plus les étudiants avancent dans le circuit et plus ils sont âgés, plus ils travaillent, plus ils ont une activité rémunérée. Et donc là, ça se voit, quoi. Ils commencent leurs études seules et ensuite, ils travaillent à un travail inférieur à un mi-temps ou à mi-temps. Et puis enfin, il y a le travail à mi-temps et plus, hein, c'est-à-dire des étudiants qui travaillent 20, 25, qui parfois font un temps complet, hein, Ils sont rares, mais bon, ils vont parfois jusqu'à 20-25 heures par semaine, et ils représentent à peu près 9% des étudiants. Donc voilà, si vous voulez, les parcours types d'étudiants qui travaillent. Vous voyez, c'est en gros, on considère qu'il y a 30% de parcours qui sont, on va dire, impactés. J'emploie un terme. Impacté par le travail étudiant.
Bon, je pense qu'on va voir le pourquoi et le comment de cette modification de parcours, de trajet, bah juste après cette première pause musicale. On se retrouve tout de suite après, toujours, pour parler salariat et étudiants. Biche, votre émission mensuelle en partenariat avec le groupe d'études Inégalité et Discrimination Territoire de l'Université de Bourgogne continue, groupe piloté par Pierre Bonneau qui est à mes côtés. On continue et on termine cette émission, déjà la dernière partie, toujours en compagnie de Georges Solo pour évoquer les situations des étudiants salariés autour de la publication récente de Salariat étudiants, parcours universitaires et conditions de vie. Et précision, Georges Solo, sur les travailleurs intermittents dont vous parliez tout à l'heure dans un profil.
Oui, en réalité, si je parle des intermittents, il faut aussi que je parle des autres. Donc, si vous voulez, on a identifié trois catégories d'étudiants salariés. La première catégorie, ce sont les étudiants salariés récurrents, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt salariés étudiants qu'étudiants salariés. Hein ? Ce sont des étudiants qui sont obligés de travailler et de travailler beaucoup pour financer leurs études. Autrement dit, ça fait partie d'une des trajectoires que j'ai indiquées tout à l'heure, ceux qui travaillent au-delà d'un mi-temps. Ensuite, et de manière récurrente, c'est-à-dire durant tout leur parcours universitaire. Ensuite, on a les salariés récents. Alors ceux-là travaillent depuis le début de l'année, par exemple. Alors ils n'ont pas encore tout à fait l'expérience de la tension qui existe entre la présence dans l'entreprise et la présence à l'université. Et pour eux, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir mener de front les deux activités sans grande difficulté. Ils n'ont pas l'expérience de la difficulté. Et puis enfin, il y a les salariés intermittents dont nous avons parlé, les intermittents fréquents, qui eux ont une activité régulière sur la durée, mais davantage concentrée dans le temps. Par exemple, systématiquement, toutes les vacances scolaires, petites, grandes, ils travaillent. Tous les week-ends, ils travaillent. Voilà, ce sont des intermittents fréquents. Mmh. Donc voilà ces trois catégories. Alors si vous voulez, au niveau de l'ensemble des étudiants, les étudiants salariés récents, nous avons photographié ces étudiants en 2015. Là, c'est une photo. Ce n'est pas le parcours dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons photographié ces étudiants en 2015. Donc, les étudiants salariés récents représentent 18% des étudiants, ce qui est beaucoup quand même, déjà. Les étudiants salariés récents, 5%. Les étudiants salariés intermittents, 37%.
Ah oui, quand même.
Et il n'y a que 40% d'étudiants qui n'ont jamais travaillé durant les 3 années de licence L1, L2, L3, puisque nous avons travaillé sur l'échantillon des L1, L2, L3.
Okay.
Donc voilà, si vous voulez,
pour 40%, répondre. Donc voilà, on peut retenir ces idées, ces proportions, 40% qui n'ont pas eu besoin ou la nécessité de travailler, et 60% qui, par petites touches ou alors grande plage horaire, ont eu besoin de travailler. Pierre, peut-être une réaction sur...
Non, je suis pas sûr que l'emploi soit uniquement une question financière, même si c'est important. Ah. C'est-à-dire que je pense que c'est que parfois, je pense que trouver un emploi qui correspond bien, qui peut être un plus, peut-être un choix délibéré de certaines familles, surtout quand on voit comment ce type de parcours peut être valorisé. Donc, c'est-à-dire effectivement je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai toujours l'impression qu'il faut voir aussi quel type d'emploi et quel type de boulot, parce que dans certains cas, c'est vrai que ça peut être effectivement un plus, alors que dans d'autres cas, effectivement, vu la pénibilité, vu la valorisation. Donc, je ne sais pas si effectivement.
Alors, un plus qui impacte quand même peut-être la réussite universitaire.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu comme les stages, on voit bien comment le type de stage que vous faites peut être un plus ou effectivement un moins. Alors, je ne sais pas si ça a été pris en compte un peu ce type de proximité entre le travail effectivement et sa capacité à alimenter les compétences professionnelles ou le CV de l'étudiant par exemple.
Oui, en fait dans la question il y a deux réponses. Oui. La première réponse, c'est de dire que quand même, par exemple, la trajectoire dont je parlais tout à l'heure pour les étudiants qui sont à mi-temps, leurs études, sur le plan sociologique, leur père est moins fréquemment cadre, ils sont en général issus de familles nombreuses. Et ils sont davantage présents, d'ailleurs, en lettres et sciences humaines. C'est là qu'on trouve les difficultés sociales les plus importantes. Et la catégorie la plus pénalisée par le travail, ceux qui doivent travailler plus qu'à mi-temps, ils sont moins souvent boursiers. Je parlais tout à l'heure des classes moyennes, inférieures. Ils habitent plus souvent en couple en 2013. Ils résident davantage en région parisienne, donc c'est plus cher aussi en région parisienne, ce qui laisse suggérer, bien entendu, des besoins financiers plus importants. Donc les catégories qui s'investissent le plus dans le travail sont celles qui en ont le plus besoin, quand même. Alors, deuxième élément de réponse, quand même, dans la question, ces travaux bénéficient-ils aux étudiants, finalement? Alors, la réponse est oui. Les travaux bénéficient aux étudiants. Les étudiants qui travaillent, même ceux qui sont salariés depuis plus de 3 ans, répondent à pratiquement 80% que ça leur permet d'acquérir une expérience professionnelle.
Donc là, on est sur une perception, malgré tout, positive.
Absolument. Ils sont pénalisés. Ils disent, on pourrait évoquer toutes les difficultés qu'ils éprouvent sur le plan de la fatigue, sur le plan des relations négatives avec les camarades, puisqu'ils sont moins souvent à l'université, donc ils ont moins de relations sociales, sur la impossibilité de fréquenter souvent la bibliothèque universitaire. Tout ça, ce sont des éléments négatifs. Mais ce travail leur permet néanmoins d'acquérir une expérience professionnelle et un peu moins de compétences complémentaires à la formation. Mais enfin, bon, c'est quand même positif. Voilà. Cela dit, sur le plan des avantages, ils disent également que le cumul emploi-études les oblige à mieux s'organiser. Et c'est parce qu'ils sont obligés de mieux s'organiser que précisément ils parviennent à des résultats relativement positif, sur des parcours un peu plus longs. Voilà, si vous voulez. Donc, il y a des aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs.
Alors tiens, j'aimerais qu'on arrive à un point que vous aviez listé là, comme il nous reste à peu près 5 minutes d'émission quand même, qui est le dernier que vous nous aviez mis en valeur, l'activité rémunérée et la réussite universitaire. Parce que, au bout du compte, au-delà de questions morales, c'est aussi ça qui va compter. Est-ce que on est énormément pénalisé? Vous nous avez dit il y a un impact. Est-ce qu'on est énormément pénalisé dans la réussite aux examens? Est-ce qu'on peut compenser plus tard derrière avec une expérience dans le milieu professionnel qui nous enrichit le CV, etc. Bref, quel rapport vous avez constaté à travers cette étude, Georges Chollot, sur l'activité rémunérée et puis la réussite scolaire?
Oui. Je complète d'abord en disant que pour les étudiants, il y a une difficulté majeure, c'est le statut de salarié et le statut d'étudiant. Moi, je voudrais rappeler qu'en sociologie, on définit le statut et le rôle en disant que le statut, c'est l'ensemble des comportements que les autres attendent de votre part. Et le rôle, c'est l'ensemble des comportements qu'on attend de la part des autres. Quand on est en entreprise, l'entrepreneur attend un certain nombre de comportements de la part du salarié, et donc de l'étudiant. Et quand on est à l'université, les enseignants attendent de la part de l'étudiant d'autres choses. Et donc l'étudiant doit articuler deux statuts et deux rôles différents, ce qui est une difficulté importante sur le plan sociologique et psychologique, bien
entendu. Et souvent contradictoire.
Voilà. Et donc, si vous voulez, cette difficile articulation peut expliquer certains impacts négatifs sur la réussite et sur les parcours. Alors, pour préciser maintenant la réponse à la question, exercer une activité salariée au moment des examens est d'autant plus pénalisant que cette activité salariée est lourde. Autrement dit, supérieure au travail à mi-temps dont on parlait tout à l'heure. Sauf, alors c'est là que vous voyez qu'on met des bémols, sauf en cas d'activité récurrente, où cette surcharge pénalisante en début de parcours devient au contraire bénéfique en fin de parcours. Autrement dit, tout à l'heure, j'ai évoqué la nécessité pour les étudiants de mieux s'organiser, et ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, c'est un bénéfice secondaire au travail, et donc la pénalisation est moins lourde pour ceux qui sont récurrents, disons. Par contre, exercer une activité légère est plutôt bénéfique au départ. Ça ne pose moins de problèmes pour la réussite. Alors, dans la réussite, on distingue la réussite aux examens, mais on distingue aussi les parcours. Autrement dit, on peut réussir à un examen ou échouer à un examen et réussir à cet examen l'année suivante, ou le semestre suivant. Autrement dit, on peut avoir des réussites, des échecs aux examens, en allongeant les parcours. Et d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que le travail, l'activité salariée, d'une manière générale, notamment lorsque les parcours, lorsque l'activité est récurrente et lorsque le travail salarié est important, allonge les parcours universitaires.
Du coup, ça modifie le profil, c'est ça, ça modifie le profil de l'étudiant qui réussit avec ce temps supplémentaire, d'accord. Donc oui, c'est pas un échec total, c'est la manière aussi dont on doit finalement appréhender son parcours universitaire quand on s'engage dans le travail, en fait, c'est aussi ça, c'est l'étudiant qui doit être conscient de ça, au moment.
Tout à fait, mais un allongement de parcours est quand même pénalisant. Imaginons des dates limites, des âges limites pour l'inscription à certains concours. C'est pénalisant aussi dans un CV. Quand on a mis 5 ans pour obtenir la licence parce qu'on était obligé de travailler, c'est pas forcément indiqué. Dans le CV, il est indiqué qu'on a travaillé, qu'on avait un job à l'université ou qu'on avait un job à l'extérieur de l'université. Mais quand on a mis 5 ans pour obtenir... pour obtenir une licence, c'est pas forcément un bon signe pour un employeur. Donc, si vous voulez, obtenir un diplôme avec un allongement de parcours, c'est un effet très important pour les étudiants, mais qui quand même peut rester pénalisant. Et en plus, on entre dans l'emploi plus tard, donc on perd du salaire.
On arrive, nous, à la fin de l'émission. J'invite les gens peut-être à aller sur Internet d'abord écouter ce podcast, hein, évidemment. L'étude à laquelle vous avez contribué, Georges Chollot, on peut la trouver, par exemple, j'imagine, à l'Université de Bourgogne. Elle est disponible ici et là, assez facilement.
Elle est disponible à la bibliothèque universitaire. Elle est disponible à l'IREDU, donc il n'y a aucune difficulté. Moi, je suis disponible pour en parler, bien entendu.
Ben voilà. Merci beaucoup, Georges Chollot.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir.